ça, maman?
Maman, tu te fiches du monde, là, hein? Moi, j'ai du mal à voir où est la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école et la voir arriver vers moi en courant, me mettait en joie. Lumière était toujours l'une des premières à sortir et nous rentrions à la maison, main dans la main. Elle me racontait alors sa journée dans les moindres détails, mais c'est jamais arrivé une seule fois.
Nous avons la chance ce soir d'être en compagnie et chez Juliette Binoche, mais comme chaque soir, nous n'allons pas déroger à la règle et nous allons commencer en musique avec Marilyn.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum, pa-dum, pa-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Alors j'aimerais bien, Juliette, que vous nous parliez de vos souvenirs du Festival d'Avignon quand vous y alliez avec vos parents.
Alors j'y allais que avec mon père, pas avec ma mère, et on partait en tournée parce que mon père avait une troupe de théâtre qui s'appelait Les Chevaux de Feu. Et on partait de ville en ville, il montrait ses spectacles et on était une bande d'enfants qui étaient les enfants des acteurs et metteurs en scène, parce que c'était une sorte de mise en scène collective. On était entre 6 et 10, ça dépendait, et on allait de ville en ville et à un moment donné, dans la tournée, on est resté peut-être trois semaines, un mois à Avignon, à Villeneuve-les-Avignons, puisque Villeneuve était beaucoup plus impliqué dans le festival à cette époque-là. Et on était indépendants. Ils nous donnaient, je me souviens que mon père nous donnait à ma sœur et moi, 10 francs. Et on devait se débrouiller avec ces 10 francs toute la journée. Et on s'était mis d'accord pour monter une sorte de petite, moi j'avais 10 ans, hein, de petite stand de merguez, et on vendait les merguez, et on achetait les chipolatas et les trucs, et on vendait parce qu'il y avait un chapiteau, il s'était lié avec une sorte de spectacle cirque, Et on gagnait de l'argent comme ça, et puis on allait vivre notre vie. Donc l'indépendance a commencé très très tôt chez moi.
Mais le théâtre aussi, et l'amour du théâtre aussi.
Ah ben on se mettait devant, on connaissait le spectacle par cœur, et on le disait en même temps que l'acteur qui était dans le chapiteau, enfin qui jouait. Ah ouais, on était... Si, il y avait l'idée de saltimbanque, qui était juste pendant la période des vacances. Hein. Ça, on l'a fait vraiment qu'une seule fois. Et après, on est revenu à Avignon, mais c'était dans des circonstances différentes. Mais c'est vrai que ma sœur et moi, on a été baignés dans le théâtre et l'amour de du off, d'ailleurs, hein, du théâtre off d'Avignon. Et de cette espèce de vous savez, il y avait un nom spécial pour aller faire la réclame, pour que les gens viennent au spectacle.
La parade du off.
Voilà, la parade. Donc on faisait des parades. Mais c'était l'été où il faisait très très chaud, je me souviens, c'était en 76, c'était en étouffé, ou 74, je sais plus très bien, mais c'était plein de vie et d'entrain. Voilà.
Et cet amour du théâtre.
Il y a le café qui est en train de.
Il y a le café, ben c'est sympa de nous offrir le café.
Oui, mais faut le fermer là parce que sinon il va bouillir. C'est vraiment pas bon le café bouillu.
On va l'éteindre sous la cafetière. Et cet amour du théâtre vous a poursuivi, mais alors après vous êtes monté sur les planches. On va y revenir. Mais il y a eu un moment où, je crois, dans la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, vous avez peut-être imaginé qu'un jour vous seriez metteur en scène de théâtre, non ?
Alors, bien avant. C'était pas aussi clairement dit que ce que vous dites, mais toute petite en pension, hein, vers 4-5 ans, je mettais déjà en scène avec les maîtresses, les élèves, enfin, parce qu'il y a des anniversaires à fêter, j'avais toute une sorte de mise en scène dans ma tête. De cercle autour de cette maîtresse. Et donc il y avait déjà une envie, une structure mentale à vouloir organiser. Ensuite, au lycée, j'ai mis en scène deux pièces de théâtre dans mon lycée, le Malade imaginaire et le Roi Summer de Ionesco. Mais avant, j'avais créé un cours de théâtre à l'heure du déjeuner. Parce que j'étais aussi dans une école expérimentale qui le permettait. On pouvait faire l'après-midi des activités extra-scolaires pour faire ce qu'on avait envie de faire.
Alors pourquoi vous avez abandonné le théâtre ?
J'ai pas abandonné le théâtre.
Bah, temporairement, vous auriez pu être metteuse en scène.
Il faut écouter ce que la vie vous donne aussi. Hein. On peut avoir de la volonté, des désirs, mais il y a une écoute... de la vie qui fait que, ben oui, les vents, ils sont pas tout à fait comme vous les avez imaginés, et c'est bien comme ça aussi. Parce qu'il y a des retournements à faire dans la vie. Je pense que la mise en scène m'intéresse, mais à la fois, j'ai été tellement gâtée par les rencontres et les possibilités que je pense aussi on peut devenir metteur en scène par nécessité, parce que les rôles qu'on vous propose sont pas si intéressants, donc on se met à écrire parce que on a envie de s'épanouir différemment. Moi, j'avoue que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans mes choix et puis la passion de rencontrer des nouveaux metteurs en scène qui ont une vision qui propulse vers autre chose, ça m'a toujours aussi intéressée, embarquée. Mais du théâtre, j'en ai toujours fait. J'ai fait à peu près une dizaine de pièces de théâtre aussi de par le monde et pas toujours en France. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas forcément au courant, mais c'est que ma vie a été faite comme ça aussi, dans cette ouverture vers les différents... Des tournées, j'ai joué ou chanté en Chine, ou joué au Japon, ou joué aux États-Unis, ou pas trop en Amérique du Sud, mais un petit peu partout dans le monde.
Quel type d'éducation avez-vous reçu de la part de vos parents ? Avez-vous l'impression aujourd'hui que vous avez exaucé le vœu de vos parents ?
Alors, je pense pas que mon père avait une idée ou une vision de ce que je pourrais faire. Franchement, je pense pas qu'il en avait conscience. Ma mère, elle m'a vue pâtissière, elle m'a vue ébéniste, elle m'a vue professeur de dessin. Je crois qu'elle a été surprise quand j'ai dit que je voulais jouer. Je me souviens, à 14 ans, elle m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire ? » On était au petit déjeuner et je lui ai dit « je ne sais pas, actrice ». J'ai dit ça comme ça en rigolant. Et elle m'a dit « mais il ne suffit pas d'être jolie pour être actrice, il faut être intelligente ». Et je lui ai dit « ah d'accord ». Ça m'est resté, même si je l'ai pas mal pris sur le moment. Mais sinon, après, c'était à 17 ans quand, quand j'ai joué Le Roi se meurt de Ionesco à la fin de la représentation, je dis, ça y est, je sais ce que je veux faire. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, je veux être dans le théâtre. Je travaillais dans le théâtre. Je ne savais pas si c'était la mise en scène ou jouer. Elle m'a dit, mais c'est un métier quand même très difficile, où c'est pas, on n'a pas forcément du travail. Et je dis, oui, mais ça m'est égal. Je sais que c'est ça que je veux faire. Ouais.
Que veut dire jouer pour vous, Juliette?
Être.
C'est-à-dire
C'est-à-dire pas fabriquer, pas faire. Une capacité d'ouverture qui permet des informations intérieures qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qu'on peut capter. Quand je dis capacité à s'ouvrir, c'est parce qu'on doit faire vibrer en soi des émotions et les appeler et les recréer. On recrée la vie, hein, comme acteur. On plaque pas la vie, on la recrée. Donc il y a quelque chose vibratoire qui doit venir. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des mentors, hein, des professeurs de théâtre. Souvent, il y a ma mère en premier, puisqu'elle était, on a fait du théâtre ensemble quand j'étais au collège, mais ensuite il y a eu Jean-Pierre Martineau quand j'étais encore au lycée, qui était au conservatoire municipal de mon quartier. Il y a eu Vera Gregg ensuite quand j'avais 18 ans, et qui était la disciple de Tania Balachova, qui était le grand professeur de théâtre, extrêmement intelligente et sensible. Et Vera était dans cette lignée-là. Et puis ensuite, j'étais au Conservatoire National, mais je suis partie assez vite parce que j'ai travaillé, je tournais rendez-vous à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait des vraies rencontres. Je pense à Suzanne Batson, qui est une coach américaine formidable, avec qui je travaille, pas sur tous les projets, mais sur beaucoup de projets. Et puis des language coach, comme on dit, des coachs d'anglais. Et je pense à Vernice Clear et Peggy Plessas. Voilà, sont, d'une manière générale, les grandes figures de proue de mon évolution comme actrice.
Aimez-vous admirer?
Bien sûr, mais tout. Les petites choses comme les grandes, les détails comme les... Je crois que si on n'est pas dans l'admiration, on n'est pas dans la vie. Parce que l'admiration permet d'ouvrir des parties de soi et que c'est comme ça qu'on se renouvelle aussi, qu'on reprend de la vie. C'est comme une transfusion sanguine, l'admiration. Je pense que l'innocence, par exemple, elle doit être acquise. Elle n'est pas donnée, elle est à acquérir. Et l'admiration, la gratitude font partie vraiment des sensations, des sentiments qui permettent l'humilité et de retrouver cette innocence.
Aimez-vous apprendre?
J'aime apprendre, mais désapprendre aussi. Et je crois que c'est plus désapprendre, apprendre que d'apprendre.
C'est plus difficile de désapprendre.
Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a une... On doit quelque part retrouver une nudité, une transparence, comme enlever des couches, les couches de l'obéissance, les couches de la volonté, les couches de l'éducation, les couches de trop d'assurance. Je trouve que de retrouver une fragilité permet, en fait, d'être au plus proche de sa vérité.
On vous sent, au fur et à mesure de ce qu'on doit appeler une carrière, je ne sais pas si vous acceptez ce mot, mais enfin...
C'est le sens de carrière italien, c'est-à-dire le chemin, ça marche. Hein.
Bah oui, c'est un chemin.
On a chacun un chemin, ouais.
Oui, mais vous voulez être construit ce chemin quand même.
Mais normalement, on est tous à construire son chemin.
Ça dépend. Est-ce que vous avez l'impression que tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez eu beaucoup de chance et puis que, voilà, André Téchiné et puis ensuite...
Alors, on appelle ça chance à la fois, c'est... Je ne sais pas comment définir ça, parce que c'est très abstrait la chance. Ça veut tout et rien dire, mais c'est plus d'être prêt. Je me souviens que c'était le... Un peu le... Ah, il y en a des cafés hein, qui se baladent ici dans la maison. Tout le monde prend son café avec attention et sans faire de bruit. Et du coup, ça m'attire. Ah non, j'ai déjà
café.
Eu un café, ouais. Donc, c'était quoi la question? Là, j'ai perdu le cours.
C'était l'idée qu'on construit son chemin, que peut-être... Il y a des rendez-vous qui s'organisent malgré soi et puis...
Oui, la vie donne.
Une exigence, disons, une exigence.
La vie, oui, Et à la fois, il faut être prêt. C'est ça.
Prêt à quoi ?
Et prêt à tout. Toute possibilité, si jamais il y a un prince qui arrive et qui veut vous enlever, et qui s'appelle James Bond, ou un film, ou une aventure, ou un voyage, ou... il faut être prêt.
On dirait que vous parlez comme une gamine de 15 ans, là.
Ben, c'est ça. qui n'a pas envie d'être embarquée comme une gamine de 15 ans ?
Vous croyez au prince charmant ?
Ah non, plus du tout. Mais je crois à l'amour. Je crois à l'amour, mais pas au prince charmant. Je pense que les princes et les princesses sont à l'intérieur de soi, qu'il faut en prendre soin, que le mariage nuptial est intérieur, et qu'à partir du moment où on a compris ça, on est libéré, on peut vivre l'amour, vraiment. Je pense que la fidélité, elle existe, mais elle existe dans le bonheur de partager. C'est pas une fidélité extérieure. La fidélité, elle se place naturellement quand on est heureux avec quelqu'un. On n'a pas à chercher un truc à l'extérieur quand c'est intérieur. Et c'est là où il... Moi, j'ai cherché longtemps, hein, je peux vous dire. Le prince charmant, j'y ai cru. Et je suis une courageuse du prince. Mais après mains essais, je vous assure que pour moi, ça marche comme ça.
Donc, ça se construit aussi,
l'amour. Il y a une fidélité, oui. Mais elle se construit par
le... Ça n'arrive pas comme ça.
C'est-à-dire que c'est l'amour qui décide. Aussi. C'est pas une décision extérieure. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas, ou que je le comprends.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez eu de la chance dans vos rôles, et en amour, avez-vous eu de la chance ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la chance ?
Ah.
Voilà. Non, je dis ça, c'est une façon de parler. En tout cas, la vie m'a donné, ça, je peux dire ça. Voilà. La vie m'a donné, mais je me suis préparée aussi. C'est donnant-donnant. Il n'y a pas... Tout d'un coup, vous avez la loterie. Et non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il faut initier les vagues. Il faut initier les montées. Il faut initier les... Mais il faut aller travailler aussi. Il faut remonter ses manches et en avoir le désir, y aller, avoir une constance. Je crois au miracle, mais le miracle, il doit avoir... comment dire, la terre, elle doit être prête, voilà, pour que ça germe. Et croire à la lumière.
Quelle lumière ?
Eh bien, la plante, pour monter et pour traverser la terre, elle croit qu'il y a quelque chose en haut pour croître. Il y a quelque chose qui l'emmène. Eh bien, l'être humain, c'est pareil, il doit croire à quelque chose qui l'emmène. Sinon, comment croître ?
Vous lisez les mystiques ?
Ah oui, il n'y a que ça qui m'intéresse, je dirais. Pratiquement tous les livres, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Bon, je suis bien obligée de lire les scripts, mais quand même, c'est la mystique qui me nourrit le plus.
Et comment a commencé cet attrait pour la littérature mystique ?
Au moment des Amants du Pont-Neuf, où j'ai eu beaucoup de temps et en arrêt difficile, parce qu'on ne savait pas où ça allait nous emmener, cette histoire-là. Donc on m'a envoyé des livres et j'ai commencé à lire et c'est là que ça s'est déclenché. Je pense à Dialogue avec l'ange, mais pas seulement. C'est aussi beaucoup de lectures de Sri Aurobindo, La Mer, Satprem. Sont vraiment les trois lectures, les trois écrivains. Enfin, Mère n'écrivait pas, mais les carnets ou les agendas de Mère m'ont passionnée. Et vraiment, j'étais prête à ça, mais aussi parce que j'étais en arrêt. J'étais arrêtée dans mon travail, un peu prisonnière en fait, et ça m'a permis en fait de plonger autrement à l'intérieur de moi. Sinon, j'aurais continué à aller à l'horizontale, en gros, de voyager, de travailler beaucoup, etc. Et donc d'être en arrêt, ça fait travailler une verticale, donc d'un rapport de soi à soi, de toutes ces réflexions là. Et puis j'avais rencontré un magnétiseur à l'époque qui m'a beaucoup aidée et qui me nourrissait de on a beaucoup échangé des lectures et ça m'a aidée à tenir le coup.
Avez-vous l'impression que votre vie a été tissée par des épreuves initiatiques qui ont été très difficiles ? Je pense au film de Léos Carax, mais finalement dont vous êtes sortie grandie, alors que tout aurait pu vous laisser KO.
Je suis sortie KO, mais finalement avec un germe était mort pour pouvoir pousser autrement. Il y avait quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai eu d'autres épreuves. Hein, tourner avec Jeremy Irons dans Fatal, ça a été extrêmement dur également.
Pourquoi ?
Parce qu'il était assez manipulateur et je dirais pervers. Bon, je l'ai déjà dit, hein, donc c'est pas chose nouvelle, mais et il le sait, hein, puisqu'on en a parlé, parce qu'il est extrêmement intelligent, charmeur et extrêmement bon acteur. Mais j'ai quand même, c'était une période difficile.
Déverrouillé. Vous avez souffert.
Ouais, je peux dire que ça a été un peu une torture, mais.
Pourquoi? Parce qu'il a tout mélangé, votre métier et.
Et parce que quand on a en face de soi quelqu'un de compliqué, on va dire, quand on doit jouer des scènes déjà compliquées, c'est pas évident. Mais je m'en suis sortie, hein, heureusement. Mais je me suis pas sentie aidée aussi, donc j'ai senti des trahisons. Et c'est vrai que quand on est acteur et que on est quand même très exposé, donc dans une, il faut du courage hein, pour se montrer à tous les niveaux, parce qu'il faut ouvrir son cœur, faut ouvrir, enfin s'exposer aussi physiquement. C'est pas évident parce qu'il y a une, chez beaucoup d'acteurs d'ailleurs, il y a beaucoup de timidité derrière et souvent ce métier est choisi comme une façon d'ouvrir la porte et d'exprimer des choses qui sont cachées. Donc il y a beaucoup de timides chez les acteurs et beaucoup de failles aussi parce que les enfants cabossés sont souvent des enfants qui connaissent, qui ont un sens de la compassion et qui peuvent donc donner plus facilement ces compassions-là à travers des rôles et à travers des histoires.
Et vous vous mettez dans cette catégorie ?
Oui, je pense que j'ai des failles, j'ai des manques et qui me permettent d'avoir une compassion plus directe.
Vous avez donné un entretien quelques mois après le début de l'affaire Weinstein au journal Le Monde qui était tout à fait extraordinaire parce que vous avez fui le manichéisme. Et vous êtes exposé justement dans cet entretien. Et vous avez dit, en gros, vous allez le dire beaucoup mieux que moi, mais en gros, le métier d'actrice suppose des risques et il est basé sur le processus de séduction réciproque. Mmh. Aujourd'hui, avec l'histoire d'Adèle Haenel, qui continue à retentir à l'intérieur de nous et aussi dans le milieu du cinéma avec des changements de pratiques cinématographiques, on en est où par rapport à cette définition de l'actrice ?
Je pense qu'il n'y a pas de définition à avoir. Il y a juste, je pense que l'intuition est vraiment le, comment dire, le pinceau de l'acteur. Il doit vraiment sentir, faire confiance à cette intuition là où c'est non, la limite, et là où c'est possible, parce qu'il a une histoire à raconter. L'histoire, elle n'est pas que mentale, elle passe pas que par les mots ou par des gros plans sur la tête. On est un corps, on vit des histoires, des histoires d'amour. Comment les exprimer ? Donc, passer par le corps, c'est une nécessité absolue. Moi, je place le cinéma au plus haut, c'est-à-dire comme une forme artistique à part entière, comme la peinture, la musique, etc. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, on doit servir une histoire. Si l'histoire, elle doit raconter une histoire du corps, eh ben il faut y aller. Il faut avoir, parce qu'on se met au service de quelque chose de plus grand et de plus important que soi. Mais il y a à savoir avoir vraiment en tête une intuition qui nous dit ça non, ça sert à rien. Et donc de confronter le metteur en scène ou le producteur, parce qu'il y a beaucoup de producteurs aussi qui poussent derrière pour vendre leur film, parce que ça fera plus d'entrées, ou ça fera parler du film, etc. Donc, c'est là où l'acteur, eh ben, parfois, il est tout seul. Et il doit avoir la force d'être tout seul, mais de dire un oui franc ou un non franc. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, dans les années 80, de lire un scénario, de m'inquiéter, et de me dire, mais comment ça va être filmé? Pourquoi est-ce qu'il y a cette scène-là ? C'est toutes ces questions-là. Et ça a été difficile. Et on est seul dans ces cas-là. Je pense notamment à un film à Bleu, avec Kieslowski. Il y avait une scène nue. Et j'ai dit, mais à Christophe, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être nue à ce moment-là ? C'est une femme, c'était décrit une femme, elle traverse nue la pièce. J'ai dit, mais ça sert à quoi ? Dans l'histoire, je ne comprends pas bien. Et je lui dis, mais tu peux pas savoir le nombre d'interviews que j'ai, les 50% d'interviews, c'est par rapport aux scènes nues. Moi, j'en ai marre. J'ai envie de parler d'autre chose. Et du coup, il l'a enlevé. Voilà. Mais c'est vrai que au départ, quand j'ai tourné Rendez-vous, bon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive à Paris et qui est confrontée à cette question, enfin, qui est confrontée à la vie. Et au départ, c'était mon premier rôle. C'est vrai que j'ai vu ça. Je savais pas comment du tout j'allais le. Alors, j'avais quand même tourné le film de Doyon, où j'avais été nue, et Godard, quand j'avais passé les essais, j'ai tourné autour d'une table nue, j'avais passé, c'était une épreuve quand même de passer ça, mais...
Oui, d'autant qu'il vous avait pas expliqué non plus pourquoi vous deviez être nue.
Dans le film de Godard, il y avait une scène nue, mais finalement... Il m'a donné un autre rôle. Peut-être que je correspondais pas suffisamment aux critères de beauté qu'il attendait. J'en sais rien. Mais André Téchiné, non, c'était, je crois, le désir de risquer quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas revu le film, mais ma mère l'a revu. Elle était horrifiée par les scènes nues. Alors, est-ce qu'elle a un nouveau regard? C'est possible, je sais pas.
Et vous avez un nouveau regard sur les rôles féminins au cinéma depuis l'histoire de l'affaire Weinstein, puis maintenant l'histoire d'Adèle Haenel. Il y a maintenant des critiques de cinéma, il y a maintenant des chaires d'enseignement du cinéma, notamment aux États-Unis, qui nous disent de regarder le corps féminin autrement dans le traitement cinématographique. Il y en a même qui ont critiqué le film d'Antonioni.
Je ne veux pas, c'est peut-être par principe, de regard moral dessus. Mais c'est à l'acteur de savoir mettre les limites. Et c'est à l'art du metteur en scène de savoir comment raconter une histoire. Je me souviens d'une scène d'amour d'Orson Welles, c'est la plus belle que j'ai vue avec Jeanne Moreau dans un lit. Ce n'est fait que par des plans de coupe et par la musique. Et on croit à l'amour. Et on voit, on a les sensations d'une scène d'amour, et on ne voit pas un sein, pas un poil, pas rien. Donc c'est aussi l'art du metteur en scène, mais beaucoup de metteurs en scène ne sont pas metteurs en scène et ils font des films. Bah oui, quand même. Vous envoyez plus vous des films que moi. Je vous envoyais beaucoup plus que moi.
Vous voyez bien. Je sais pas. Vous n'allez pas beaucoup au cinéma. Vous n'avez pas le temps.
J'en ai pas forcément le temps, ça c'est une chose, mais je choisis surtout les films que je veux voir. Mais vous, je pense que vous voyez plus de films que moi, c'est votre métier aussi.
Je vois beaucoup de bons films, et vous?
Ah bah tant mieux.
Non mais parce que dans ce film, vous interprétez peut-être un personnage qui vous ressemble beaucoup, le film qui sort, La Vérité. Vous êtes la fille de Catherine Deneuve. Et Catherine Deneuve, est-ce que vous êtes aussi cinéphile qu'elle? Parce qu'elle, elle peut pas s'en passer d'aller au cinéma.
Alors, je n'ai pas le nombre exact de films que Catherine voit et le mien. Et la comparaison m'intéresse pas tant que ça, puisque chacun vit comme il veut et est inspiré comme il veut. Je trouve qu'un coucher de soleil, ça peut être beaucoup plus inspirant qu'un film. Ça dépend quel film on voit. Mais quand je vois les films, j'essaie de choisir et pas perdre mon temps dans le sens où un film me déplaît, ça me met pas en joie. Donc, et ça me nourrit pas.
Mais vous dites qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ne sont pas des cinéastes.
Oui, je le pense vraiment, oui.
C'est-à-dire qu'ils veulent faire des films basés sur des scénarios, avec des acteurs bankable, et puis pas forcément d'idées sous-jacentes qui soient proprement intéressantes.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de films, et pas forcément des films d'art. Mais je vous apprends rien.
Vous avez bien choisi quand même vos cinéastes. Vous avez pas beaucoup choisi les metteurs en scène. On peut pas dire, mais par contre, je voulais savoir si vous aviez l'impression, Juliette Binoche, que quelquefois vous étiez muse. des cinéastes avec qui vous avez choisi de travailler. Alors, je vais prendre un exemple concret.
Mais eux aussi, ils ont été mes muses.
Ah bon,
ils m'ont inspiré aussi, les metteurs en scène.
Oui, mais parlons de vous. Là, c'est avec vous qu'on parle.
Mm.
Prenons un exemple concret. Olivier Assayas, Sils Maria.
Alors,
ce rôle où vous êtes mais vraiment bouleversante au point qu'on a envie de pleurer. Vous êtes bouleversante et vous interprétez le rôle d'une actrice qui est sur la pente douce de l'éloignement professionnel, pour parler.
C'est joliment dit, hein, alors.
Pour parler des choses pas trop cruellement. Mais vous êtes incroyable. Vous avez joué ça alors que vous aviez pas du tout ni approché cet instant-là de votre itinéraire ou de votre chemin. Et vous avez accepté ce rôle frontalement.
Je l'ai même désiré, puisque je l'ai appelé pour qu'il écrive, qu'on fasse un film ensemble.
Donc, il vous a pris comme terrain nourricier de sa propre discipline artistique.
Oui, oui, oui. On a fait 3 films ensemble. J'aime beaucoup Olivier. C'est quelqu'un qui est un écrivain, pour moi, en premier, je dirais, et qui aime le tournage comme une sorte de matière vivante. Il est pas trop arrêté sur les choses. Il aime être nourri, être je sais pas comme on a. Je me sens libre avec lui. Voilà. Et s'il y a quelque chose si j'ai envie d'initier quelque chose avec lui, je le fais parce que je sais qu'il le comprendra dans un sens créatif et pas dans un pouvoir que je peux lui retirer, par exemple. Parce qu'il y a des metteurs en scène qui ont peur de perdre leur pouvoir parce qu'ils sont trop peu sûrs d'eux. C'est pas le cas d'Olivier. Il a une générosité aussi. Et je pense notamment sur le dernier, comment il s'appelle?
Ah oui.
Je pense à Double Vie.
Ah, Double Vie, d'accord. Parce qu'il y en a un nouveau sur Cuba.
Bon, pardon. Non, mais qu'on a fait ensemble.
Ah oui, pardon.
Je pense à Double Vie, et à un moment donné, il pensait que le moment d'émotion allait être à la dernière scène, et finalement, je l'ai joué à un autre moment, et ça a fait sens après pour lui. Mais il m'a fait confiance sur le moment, ce qui n'était pas forcément
Vous êtes plutôt
évident.
Très drôle dans Double Vie.
Oui.
Très drôle, très joyeuse, très heureuse, très jubilatoire.
Ben, il voulait que ce soit un peu une comédie, oui. Oui. Comme le film de Koreeda. Koreeda nous a dit que c'était une comédie. Je dis, dis donc, les rapports entre la fille et la mère ne sont pas vraiment tout à fait comiques par moment, parce qu'il y a une confrontation par moment. Ben oui.
Il y a une confrontation, mais il y a en même temps beaucoup d'humour sous-jacent à l'intérieur de leur relation.
Oui.
Comment c'est organiser ce désir de travailler avec Koreeda?
C'est pas une organisation, c'est une organisation de rendez-vous. C'est Mathilde Acerti qui m'a dit ce serait bien que tu rencontres Koreeda. Donc il y a à peu près 12, 13 ans, 14 ans maintenant. Et j'ai vu son film que j'ai adoré, Nobody Knows. Et je l'ai aimé, lui. J'ai aimé son regard, j'ai aimé sa présence. Et j'avoue que c'est parfois suffisant pour un acteur de se sentir bien à côté de quelqu'un. Évidemment, le film qu'il avait fait était magnifique. Et puis le temps a passé et voilà, il a écrit. Au départ, je pense qu'il s'imaginait pas pouvoir tourner en France et puis les choses se sont faites comme ça.
Et à partir de quels matériaux se tissent les relations entre la mère et la fille dans La Vérité? Est-ce que ça s'est élaboré sur un scénario très précis? Est-ce que vous avez improvisé à l'intérieur des scènes entre Catherine Deneuve et vous? Comment ça s'est passé?
Non, c'était un scénario bien écrit, construit. Mais par moments, ça ne nous empêchait pas à un moment donné de rajouter quelque chose, une phrase ou un moment. Par contre, avec Ethan Hawke, qui joue mon mari dans le film, lui, il aime travailler pratiquement que sur l'improvisation. Donc, à partir du texte qu'on a, on a parfois brodé ou parfois joué ce qui était écrit. En fait, comme le metteur en scène ne comprenait pas le français, ça nous permettait plein d'apartés. Non, je rigole. Mais puisque Koreeda ne parlait pas ni français ni vraiment anglais.
Mais vous parlez japonais ?
Bah, tout à fait, couramment.
Ben vous avez tourné il n'y a pas si longtemps avec Naomi Kawase. Il y a un syndrome japonais dans le chemin de Juliette Binoche.
Oui, qui m'arrive là. Droit de... C'est le... Ouais, le... C'est étonnant, mais...
Est-ce que c'est si étonnant que ça? Ou est-ce que ça correspond pas justement à une... à un mode de pensée très intérieur de vous, de tourner avec des cinéastes japonais?
Non, ça vient pas du Japon, ça vient juste de l'envie de travailler avec des metteurs en scène qui ont vraiment une patte, qui ont une relation à la vie et au cinéma qui me touche. C'est qu'on est touché par le monde d'un cinéaste, la façon dont il raconte les histoires. Il y a toujours un enfant, par exemple, dans ses films. Et c'est vrai que j'ai vu sur le tournage. Il était excité à l'idée de tourner avec un enfant parce que on doit créer vraiment un monde avec. C'est incroyable que l'être humain fondamentalement croit. Un enfant, il croit. Il croit ou il croit pas. Mais quand il croit, il est totalement bon.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Je vous propose de rendre hommage à Anna Karina, dont nous avons appris la disparition en l'écoutant chanter.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
L'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance. Quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que...
Alors toutes ces actrices qui disparaissent, je pense à Godard avec Anne Wiazemski qui a disparu il y a 2 ans et demi.
Juliette Berthaud.
Juliette Berthaud, Anna Karina.
Ouais.
Le ciel des étoiles s'obscurcit.
Oh, il y en a d'autres qui arrivent.
Bah pas tant que ça. Vous trouvez qu'il y a de la place pour devenir actrice aujourd'hui?
Oui, il y en aura toujours. Un acteur, ça fait partie même de l'être humain, je dirais. Jouer, on a tous ça en nous. Un enfant, il joue. Il a besoin de jouer. Il se prépare à la vie, il recrée la vie, il se raconte des histoires. Ça fait partie vraiment, c'est inhérent à l'être humain, le jeu. Alors si c'est pas le cinéma, c'est pas grave, ce sera le théâtre. Mais il y aura toujours cette idée de besoin d'histoire pour se comprendre, pour apprendre, pour connecter, pour évoluer. Regardez pendant la guerre en Bosnie, ils ont continué, ils ont monté une cinémathèque. Malgré tout, ils ont survécu grâce aussi à ces histoires, à l'imaginaire, à des sentiments qui sont soulevés par les autres.
Votre fille veut faire du cinéma, vous allez l'encourager ?
Alors là, elle est dans une école de cinéma, donc elle est très intéressée par le montage. Donc je pense que pour l'instant, elle va faire une escapade dans le montage.
Vous revendiquez le corps comme véhicule de pensée. Vous dites que le corps pense, et d'ailleurs vous le montrez à l'intérieur de votre itinéraire. Comment le corps peut-il penser ? Et on est saisi quand on regarde plusieurs de vos films durant votre long chemin. C'est vrai, pour une femme jeune que vous êtes, vous avez une quantité de films absolument extraordinaire. Et on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est une nouvelle donne, que vous repartez à zéro avec votre tête, votre pensée, votre intelligence, comme disait votre mère quand vous étiez petite, mais aussi avec votre corps. Qu'est-ce qui se passe pour cette préparation-là ?
Ben, en fait, il devrait pas y avoir de cassure entre le corps et l'esprit. C'est nous qui l'avons mis. On dit d'ailleurs que la séparation du corps et de l'esprit, souvent, ça a été... C'est symbolisé à partir du moment où la science a commencé à rentrer, à opérer des corps et à intervenir dans le corps. Parce qu'on a mis le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et souvent dans les écrits, dans les philosophies, il y a cette séparation-là, qu'il n'y a pas du tout dans les traditions chinoises, par exemple. L'acupuncture, le corps et l'esprit sont ensemble et on travaille un sentiment, une couleur et un organe et ensemble. Maintenant, on le retrouve, ça, parce qu'il y a des nouvelles sortes de vagues, qui des médecines nouvelles qui remettent évidemment cette séparation en cause. Mais d'abord, ça se sent un acteur qui travaille avec des sensations. Son corps est différent. Il vibre pas de la même façon. Si on travaille que avec la tête, si on apprend son texte et qu'on joue mentalement que avec la tête, le corps n'est pas transformé. Pour moi, l'incarnation, c'est la transformation du corps. Et c'est comme dans la vie d'ailleurs. C'est pour ça que pour moi la prière est si importante, parce que c'est vraiment la prière fait rentrer en soi des choses, une sensation qui ouvre les pores de la peau. Et le regard n'est pas pareil, la pensée n'est pas pareille, parce qu'elle permet une sorte de porosité qui est de l'ordre de la transformation. L'acteur, c'est le grand transformateur quand même, c'est celui qui va raconter une histoire et il y a un début, un milieu, une fin. Et cette transformation, elle doit être intérieure, donc... Je me suis toujours intéressée à ça parce que c'est notre réalité en tant qu'acteur. Et c'est vrai que mon jeu a changé à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, que la sensation était beaucoup plus forte que la pensée, quelque part. C'est-à-dire de se remémorer un moment, par le froid, le chaud, une couleur, un sentiment, qui fait que, après quand on joue, ça vient tout seul. Et c'est plus vrai que vrai. Le mental peut pas décider ça. C'est le corps qui l'amène. Je sais pas si c'est très clair parce que c'est un peu compliqué, mais quand on le vit, quand on l'expérimente, c'est hyper clair.
Ça veut dire aussi peut-être, Juliette Binoche, que vous restez identique malgré les rôles que vous interprétez. Vous êtes toujours la même.
Non, je pense pas. Je pense que le choix de... Le choix intérieur, il est différent à chaque fois.
Oui, mais après, il faut refaire table vierge pour recommencer une nouvelle aventure. Donc, d'où tirez-vous votre force ?
Non,
pas anodin de jouer.
Non, de trouver une neutralité intérieure, c'est pas de recommencer à zéro. C'est d'être humble. C'est de pas se mettre entre soi et ce qu'on va créer. Donc de faire place, ça veut dire de reculer comme une vague se recule pour faire place à une autre vague. Mais c'est pas faire table rase, la mer elle est toujours là. C'est juste être disponible, disposé à quelque chose de nouveau. Et faire place à quelque chose de nouveau, C'est être, on peut appeler ça une neutralité, c'est être dans l'écoute, tout simplement. C'est une écoute, c'est une oreille nouvelle, un œil nouveau. Là, oui. Là, il peut arriver quelque chose de qu'on ne savait pas soi-même, qui nous étonne soi-même. C'est pour ça que le metteur en scène est si important à ce moment-là, parce qu'il est notre vecteur de notre père. Et que, parce qu'on est abandonné, parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait pas. Et on a besoin de ne pas savoir, de sauter dans le vide. Et son œil et son écoute sera alors... C'est pour ça que quand un metteur en scène vous dit « j'ai tout ce qu'il faut, ça me va », c'est terrible pour un acteur. Parce qu'il ne se rend pas compte à ce moment-là qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'explorer. Et on explore toujours mieux à deux. Parce qu'il y a une descente qui peut être plus profonde. Et c'est de rester dans l'ouvert. Et l'acteur, il sait quand il a touché le bout du bout. Il le sait. Parce que c'est lui qui descend. Le metteur en scène est là pour voir la descente. Il est un repère, mais il doit laisser l'acteur aller au fond du fond. Moi, je sais qu'au début, comme jeune actrice, je n'arrêtais pas de rejouer les scènes parce que quelque part, c'était pas allé là où ça devait aller. Par contre, maintenant, ça m'arrive très rarement de rejouer une scène à l'intérieur de moi parce que c'est joué. Donc, à partir du moment où c'est joué, on tourne la page. C'est fait. C'est donné. J'ai pas besoin de me retourner. Et c'est ce rapport-là qui est passionnant d'ailleurs entre metteur en scène et acteur, parce que parfois on a un metteur en scène qui a peur, qui a différentes peurs, pas peur de pas tenir le coup, peur de perdre son pouvoir, peur de pas aller là où il avait visualisé que l'acteur serait, jouerait comme ci ou jouerait comme ça. Donc c'est à l'acteur de donner la confiance au metteur en scène pour qu'il lâche sa peur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout un cheminement qui est passionnant, mais à la fois qui est de l'ordre psychologique, émotionnel, et je pense vraiment que entre acteur et metteur en scène, ça joue des deux côtés. C'est-à-dire que oui, le metteur en scène peut emmener l'acteur, mais l'acteur aussi peut emmener le metteur en scène. Ça se joue vraiment comme une danse.
Ça veut dire que la spiritualité et le métier d'actrice peuvent aller de pair.
Ah, complètement. Le silence, la qualité du silence avant une prise, pour moi, elle est mystique. Et ce saut dans le vide, il doit être de l'ordre de la respiration, de prendre un souffle ou d'expirer, mais de prendre un souffle et on ne sait pas où ça va aller. Donc c'est vrai qu'on a travaillé, c'est vrai qu'on a en mémoire tout ce qui doit être fait quelque part dans les mots, dans les marques, parce qu'il y a une chorégraphie et qu'on travaille aussi avec une technique et le point doit être fait, etc. Mais il faut croire à l'impossible, il faut croire au miracle, il faut croire qu'on va inventer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, ça devient passionnant parce qu'on est vraiment sur une route d'art à plusieurs, ce qui est quasiment impossible. D'être artiste seul devant sa toile ou seul avec son instrument, c'est une histoire qui est passionnante, mais on est en rapport avec certainement les étoiles, mais avec soi-même. Mais quand il s'agit du cinéma, c'est une autre histoire, parce qu'il y a des accords et des désaccords. Il faut trouver une sorte de vision commune qui se fait en même temps qu'on le fait. C'est pas un truc extérieur. C'est comme une mayonnaise qui doit prendre, quoi. On doit mélanger, remélanger et ça doit prendre.
Ben, merci infiniment, Juliette Binoche. Et vive la vérité. Vive la vérité qui sort en salle, ben, ces jours-ci. Et, ben, merci pour le café. Moi, je reprendrai bien un petit peu.
Ma sœur, nous avons des cœurs siamois, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister.
Et c'est avec ma sœur de Clara Luciani que nous allons nous quitter ce soir, non sans rappeler que le film où va jouer Juliette Binoche va sortir très prochainement et s'intitule tout simplement « La vérité » et il est signé par l'immense réalisateur Kore-eda. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazar et Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Fabien Gosset qui était à la technique ce soir. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.